Bonjour, bienvenue au 1A Club, le podcast mensuel sur la bande dessinée. Je suis 1A Pied, aujourd'hui je suis avec Thio et nous allons vous présenter des bandes dessinées, nous faire de nombreuses critiques, en dire du bien, du mal, beaucoup du bien car nous les achetons avec nos sous et nous essayons d'éviter d'acheter des choses trop mauvaises. Ce podcast peut sembler un peu mégalo car le 1A Club, alors que je me prénomme moi-même 1A Pied, je vous rassure, ce n'est pas mon vrai nom. Eh bien oui, nous sommes dans mon salon avec mes BD, donc zut, j'ai décidé de... C'est mon podcast, c'est le mien. Donc je reçois aujourd'hui Thio qui va légèrement se présenter. Bonjour Thio.
Bonjour, mais en même temps, tu te présentes, c'est normal, étant donné que c'est ton club, mais a priori, je ne changerai pas.
Oui, il sera là.
Tu me viras à chaque fois, mais...
Non, mais je te changerai de pseudo à chaque fois, je te réembaucherai sous un autre nom.
Donc, comme ça, pas de CDI, enfin bon.
Voilà, donc Mathieu, présente-toi un peu ce que tu aimes en BD, quel est ton parcours lecture. Tu n'es pas obligé de faire un fou rire, je t'écoute.
Non, ce qui est drôle, c'est que tu dis qu'il faut qu'on s'appelle Thio, mais que tu viens juste de dire le prénom maudit et maléfique, tu vois. Donc du coup, tu as quasiment tout cassé.
C'est vrai. C'est donc, pour recommencer ou enchaîner, Thio.
Comme ça, personne ne le saura. Une présentation rapide. Je lis un peu tout. Et donc du coup, on a une grande discussion avec Pied sur beaucoup de choses. Du coup, le deuxième prénom maléfique est passé aussi. Et donc, ben voilà, à force d'en parler, on s'est dit pourquoi ne pas en parler aussi aux autres et donner notre avis, et peut-être même, du coup, vous aiguiller sur des achats possibles futurs, voire même, du coup, vous éviter d'atroces souffrances en lecture mauvaise.
Oui, petite précision, toi, tu achètes principalement de la bande dessinée européenne, à tendance plutôt historique, il me semble.
Plutôt historique, voire heroic fantasy ou fantastique.
D'accord. Ah, tu achètes du soleil ! C'est le mal !
Non, il y a aussi des bonnes choses chez Soleil. Faut pas cracher de gomme sur tout. Il y a des bonnes choses, il y a des bons dessinateurs, des bons scénaristes. Et il y a aussi du... On veut faire de la thune.
Mais je n'entendais pas moins de ta part. Moi non plus, je ne crache pas sur Soleil. J'ai une belle collection de l'enfeuste là-haut. Nous en parlerons peut-être dans une autre émission. En ce qui me concerne, eh bien vous verrez, ce qui n'est pas le cas dans ce podcast, que je suis un acheteur compulsif de comics. J'achète principalement ce genre de choses, car j'ai grandi avec. J'ai pris un grand plaisir à lire du Marvel, voire du Disney avec Karl Barks, donc je suis un grand fan, et Ken Odenrosa, dont nous parlerons peut-être une autre fois. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par notre première rubrique, qui parle exclusivement de comics, c'est la rubrique Easy Reading. Le Easy Reading concerne des bandes dessinées qui peuvent être lues très facilement, des bandes dessinées qui sont à double emploi. Nous pouvons les lire aux toilettes et nous en servir lorsque nous manquons de PQ.
C'est rude, mais c'est un petit peu ça.
C'est un petit peu ça. Bon, toutes ne sont pas mauvaises, hein, car dans la lecture facile, nous pourrons aussi placer quelque chose de chez Soleil de qualité. Nous commençons avec Ultimate numéro 43 de Jeff Lubb et David Finch, qui achève le méga crossover Ultimatum.
C'est à ce moment-là que je dois vomir, en fait.
Ce n'est pas très... C'est très visuel comme image. Oh, une image visuelle, je suis fort. Que pourrais-tu dire ? Bon, déjà, nous avons une bande dessinée de Jeff Lubb que j'apprécie souvent la plupart du temps. Jeff Lubb est un scénariste de bande dessinée américain qui a fait beaucoup parler de lui, qui est assez connu, qui travaille aussi pas mal avec la télé. Ces derniers temps, il est scénariste consultant sur Lost. C'est un auteur assez réputé, mais qui, ces derniers temps, a un peu baissé au niveau.
Je valide. Ultimatum, c'est pas que c'est mauvais, mais le scénario, il y a à peu près rien.
Qu'est-ce que ça raconte, déjà, Ultimatum ?
On va le faire... On peut faire des spoilers, alors ?
Ouais, qu'est-ce qui s'est passé avant, déjà, pour savoir comment on en est arrivé à Ultimatum 3 sur 3 ?
Alors, la fille de Magneto est tuée, abattue. Là, Magneto pète un plomb, normal, hein, et pète un plomb. Et...
Le plomb n'est pas magnétique, il ne peut rien sur le plomb. Magneto ne peut rien sur le plomb, Mathieu.
Merde. Et donc, du coup, Magneto pète un plomb et veut détruire, en fait, l'humanité. Donc, on résume assez facilement, puis ensuite, on arrive à ce qu'il fasse, donc, des petits rats de marée, un petit, bon petit scénario style 2012 où... The Day Before Tomorrow, hein, mais on en arrive à ça, et les héros qui tombent par centaines, hein, et pas des moindres, mais on fait disparaître allègrement presque 30 ans d'histoire Marvel.
Alors, petite précision, nous sommes dans l'Ultivers Ultimates. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ultivers Ultimates, c'est un univers parallèle de chez Marvel qui réécrit un petit peu l'histoire des super-héros du départ. Donc, dans l'univers Ultimates, il y a assez peu de séries. Hein. On n'est pas non plus avec la palanquée d'histoires qu'on peut avoir chez Marvel. Donc, il y a un Spider-Man, mais c'est un Spider-Man comme si son histoire avait commencé dans les années 2000. Il y a des X-Men et il y a les Vengeurs qui, pour le coup, s'appellent les Ultimates. Donc, effectivement, s'il y a beaucoup de morts dedans, forcément, ils peuvent se permettre un peu plus de liberté. Alors, à l'origine, le label Ultimate était sorti pour essayer de réinvestir les kiosques, car il faut savoir qu'aux États-Unis, la bande dessinée américaine avait quitté les kiosques il y a quelques années pour ne se retrouver qu'en librairie spécialisée, ce qui avait fait perdre beaucoup de lecteurs. Les séries Ultimate sont revenues dans les kiosques pour essayer de toucher un nouveau public, un public, je dirais entre guillemets, plus jeune, car le ton de la plupart des séries était quand même assez moderne et adulte. Malheureusement, à la même période, l'univers Marvel a réussi à être relancé avec de très très bons crossovers, des histoires de qualité, ce qui fait que l'univers Ultimate, ça a un petit peu perdu sa légitimité. Donc, là, l'Ultimatum numéro 3 sur 3 donc, nous raconte la mini-série Ultimate. Qu'est-ce que toi, t'as vraiment déplu, à part la flopée de morts dans cette histoire ?
Trois tomes et on en flingue un bon paquet au début, au milieu. À la fin, l'histoire avance pas vraiment et on arrive finalement par la dernière page où on aurait presque, quand on ouvre la page, ça fait tadam ! Et en fait, il y avait un truc caché derrière.
Oui, le coup classique du truc caché derrière de la fin. Mais en général, ça marche. Je veux dire, souvent, ça nous fait une petite surprise intéressante. Pourquoi est-ce que là, ça ne marche pas d'après toi ?
Parce que c'est trop prévisible. Enfin, moi, je l'ai trouvé prévisible dans le sens où il a tué tellement de mecs. Je veux dire, bon, on considère que vous l'avez lu. Hein. Donc, Magneto, il passe. Xavier, il passe. Cyclope, il passe. On se dit qu'a priori, il y a forcément un truc qui doit pas être vrai. Donc, bon, je vous raconte pas la fin, mais on se dit forcément, il y a un truc qui doit être caché derrière, quelque chose qu'on n'a pas su. Et ben, finalement, c'est vrai.
Est-ce qu'on pourrait s'attendre un petit peu à une histoire version la sorcière rouge qui nous a fait une illusion, comme ça a déjà été fait dans l'univers Marvel classique?
C'était dans quoi déjà ça?
Cette histoire-là se trouve dans un des crossovers assez récents.
C'était pas House of M?
House of M, c'est ça. Voilà, oui, bravo Mathieu, tu marques des points.
Alors bien sûr, en deuxième semaine, c'est
bien sûr, chose terrible, il faut savoir que dans ce Ultimates, un personnage très important de l'univers Marvel en général y passe.
Ah oui.
C'est Wolverine. Alors, je ne gâcherai pas la surprise en vous disant qu'en fait, nous pensons qu'il n'est pas mort. Car qui peut tuer Wolverine ? C'est quelque chose. Et c'est là qu'on touche quand même, je pense, pour moi, un peu le fond du ridicule. Nous voyons ce qu'il reste de sa main. Alors, je tourne les pages pour retrouver cette superbe image. Le reste de sa main qui tombe dans l'eau sur des fonds de flammes, car une grosse bombe vient d'exploser.
Avec
les griffes sorties, oui. En fait, il nous aurait juste mis un gros doigt de Wolverine qui nous fait « Ah, je suis pas mort », ça aurait été un peu la même chose.
C'est à peu près ça l'idée. Mais je pense qu'ils auraient pu le tenter avec les griffes, ça aurait été sympa.
Ouais, juste une griffe sortie au milieu. D'accord. Donc, on vous le dit, Ultimates, on ne vous le recommande pas. Alors, tout de même, je vais venir un peu sur les dessins, on n'en a pas parlé. C'est David Finch qui est au dessin. David Finch est un illustrateur que moi, j'aime beaucoup, qui sort de l'écurie Topco. Qui a un style très proche de ce que pouvait faire Mark Silvestri à une époque, même s'il s'en est un peu démarqué. Qu'est-ce que toi tu penses de ce style graphique ? Qu'est-ce que tu as pensé du dessin de façon générale ?
Le dessin est bon, la mise en page je trouve assez dynamique, quand moi je prends un comics ou une bande dessinée, je regarde en priorité le dessin. Là il me convenait, donc je me lance dedans. On a vraiment des beaux dessins en double page, des cases qui sont très dynamiques, une lecture qui se fait facilement, mais du coup, moi je trouve que le scénar, c'est ça qui m'a fait un petit peu vraiment reculer sur l'Ultimate, sur celui-ci.
D'accord.
Mais le dessin est quand même très bon.
De qualité. Nous poursuivons dans l'univers Ultimate avec Ultimate. Oui, vas-y, jette-le, mais quand même, dans ma collection. Peut-être qu'un jour, il vaudra
le sou. Jeter sur le canapé.
Avec Ultimate Fantastic Four numéro 32, sur sous-nommé Qui pourra sauver Jan ? Qui est un numéro spécial de 72 pages. Alors, nous poursuivons sur l'histoire de ce crossover qui s'appelle donc Ultimatum, qui est donc un crossover, c'est quand plusieurs séries se croisent. Ce crossover Ultimatum est censé annoncer la fin de la première ère Ultimate. Donc ils en profitent pour liquider plein de gens, pour relancer l'univers Ultimate sur de nouvelles bases. Avec le massacre en règle qui a été fait, effectivement, les bases vont être pas mal. Je pense que la Terre sera riche avec beaucoup de choses.
Ou vide.
Ou vide, oui, effectivement.
Ou vide de tout mutant, presque.
Voilà, nous verrons si celle-ci permet de faire pousser de bonnes choses. Donc nous arrivons sur Ultimate Fantastic Four avec... Au scénario, que je me souvienne, je ne retrouve plus son nom, Joe Pokaski, et au dessin, Tyler Kirkham, avec une flopée d'encreurs variées. En général, sachez que quand il y a 40 000 encreurs, au niveau de la qualité, de la continuité, ça s'en ressent un peu, surtout quand ce n'est pas fait intelligemment. Venons sur l'histoire. Donc Ultimate Fantastic Four n'a jamais été la meilleure série Ultimate, même s'il y a une assez belle période, surtout quand... Greg Land était au dessin, avec les Marvel Zombies qui ont émergé dans cet univers-là. C'était une période assez intéressante. Qu'est-ce qui se passe dans ce Ultimate Fantastic Four numéro 32
On en arrive que je me rappelle, hein, parce que on a dû tout lire, hein, donc il faut que ça revienne un petit peu.
Oui, alors, c'est aussi un podcast un peu particulier, car on a essayé de ressortir un peu tout ce qu'on a acheté ces derniers mois. Et forcément, certaines choses ne sont plus très fraîches dans nos mémoires.
Donc on a, si je me souviens bien, donc Namor qui avait kidnappé Jane, puis ensuite du coup Jane donc revient et enfin échappe de Namor et se retrouve dans une situation un peu compliquée visiblement. Hein. Elle a des problèmes avec ses petits pouvoirs. Red a disparu, la torche aussi, et il reste finalement plus que la chose qui est en train d'essayer de recoller plus ou moins les morceaux dans un Baxter Building qui ressemble à plus à Fort Alamo, quoi.
Donc oui, ça n'a pas l'air très clair dans ta mémoire.
Non,
alors moi, c'est un peu plus frais pour moi. J'ai dû le lire il n'y a pas moins longtemps que toi, peut-être, j'en sais rien. Bon, en gros, il y a eu le gros tsunami Ultimatum. Forcément, Red Richard a dit « C'est sûrement la faute de Namor », donc il allait casser la gueule à Namor. Pendant ce temps-là, Jen a dû utiliser vachement ses pouvoirs pour contenir le tsunami et protéger un maximum de gens. Et elle ne contrôle plus ses pouvoirs et devient invisible en partie. Alors vous noterez que quand les personnages Marvel deviennent invisibles en partie, ce ne sont pas seulement que leurs vêtements qui sont invisibles, mais aussi leur peau. À croire qu'ils veulent nous préserver nos yeux d'une image qui pourrait nous choquer. Pendant ce temps-là, Johnny, lui, a disparu, si je me souviens bien.
Ouais.
Il est censé être mort, même, d'ailleurs, je crois bien, tant qu'à faire. J'ai un doute. La chose tente d'essayer de recoller les morceaux, sauf que c'est pas vraiment l'intello du groupe. Au niveau de l'histoire, je suis moins mauvais qu'avec le Ultimate numéro 43. Ils essayent de revenir un peu sur le passé des personnages, sur l'origine de l'amitié entre Red et Ben Grimm, donc la chose. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, ils ont essayé de faire un petit peu progresser les personnages, de faire progresser l'histoire. Il faut penser que quand même on est dans un univers parallèle à l'univers Marvel et donc qui n'ont pas été aussi développés jusqu'ici. Par contre, c'est vrai que ça fait pas beaucoup avancer les choses, il n'y a rien de vraiment flambant. Comme je disais, les dessins ne sont pas mauvais, on a eu pire sur cette série. Malheureusement, ils ne sont pas transcendants, les couleurs sont un peu trop flashy à mon goût, surtout. Surtout pour quelque chose de post-apo comme ça. Mathieu, qu'en penses-tu ?
J'ai trouvé au moins une bonne image.
Une bonne image, oui, nous avons Ben Grimm dans une sorte de costume de cosmonaute qui fait un peu penser à du Armageddon.
Ouais, ou alors l'étoffe des héros.
L'étoffe des héros, peut-être.
Tu sais, avec la vieille, il a son espèce de, je sais pas, une couette là sur l'épaule, ça fait bien, non ?
Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est le dernier numéro de Ultimate Fantastic Four. La série renaîtra-t-elle ? Je n'en sais rien. Il faut noter qu'à l'intérieur, les couvertures sont assez splendides. si franchement l'intérieur avait été du même dessinateur, peut-être que l'intérêt
aurait été différent.
Parce que le scénario, comme je disais, je ne trouve pas totalement dessin, mais mauvais, mais les dessins sont assez quelconques, assez trop classiques. Oui, une remarque.
Johnny Storm est vivant.
Ah oui, il est vivant. Ouais, enfin, il est en enfer.
Il est vivant, mais a priori, il est mal barré.
Bon, en gros, ça tourne un peu n'importe quoi dans tous les sens. Ils ont laissé beaucoup de portes ouvertes. On verra comment ils vont réussir à les utiliser et les emprunter.
Allez. S'ils les empruntent un jour.
Voilà, Viron Ultimate Fantastic Four. Alors, nous arrivons sur quelque chose. Restons dans l'univers Ultimate plutôt. Tant qu'à faire. Sur un crossover entre Wolverine et Hulk qui se passe avant le crossover Ultimatum. C'est écrit en gros dessus par le scénariste de Lost. Nous avons donc au scénario Damon Lindelof, qui est un des scénaristes de Lost. Un des scénaristes de Lost, qui a aussi bossé sur toutes les séries de J.J. Abrams, en fait. Ils sont très amis, donc on a pu le voir aussi travailler. Il me semble qu'il est co-scénariste sur le dernier Star Trek. C'est à vérifier, mais il me semble bien. Et donc, nous avons une rencontre entre les deux personnages les plus subtils et intellectuels de l'univers Marvel, version Ultimate, que sont Wolverine et Hulk.
Exactement. Et là, en fait, en lisant le titre, on se dit on va avoir droit au truc ultra bourrin de la mort, que des combats. Et finalement, bon, on a ça, oui, mais il n'y a pas que ça.
Alors, on reconnaît la patte d'un scénariste de Lost, sans doute, par cet amour du flashback. Et du récit complètement explosé dans tous les sens. On fait des allers-retours dans le temps pour essayer de recomposer l'histoire au fur et à mesure, ce qui crée un dynamisme vraiment très intéressant et qui fonctionne très très bien sur cette histoire. L'histoire commence sur Wolverine coupé en deux.
Désolé.
Pour mélanger un peu tout ça, voilà, Wolverine coupé en deux, Hulk dans un harem, en tant que proprio du harem, hein, bien entouré, dirons-nous. De la baston, de la belle histoire, des surprises, vraiment quelque chose de très intéressant et un dessin qui ne gâche rien.
Non, mais surtout aussi, on revient dans l'univers Ultimate, le moment où le Shield essaie de se débarrasser de Hulk et on sait enfin ce qui s'est passé.
Oui, alors pour revenir, effectivement, on va peut-être remettre les choses dans le contexte. Dans la saga, dans le Ultimate, en fait. Le Shield, donc, qui est en gros l'organisme top secret qui gère tous les trucs de super-héros et compagnie, en gros, a essayé de se débarrasser de Hulk, qui avait quand même tué beaucoup de gens sans faire exprès.
Mais c'était pas lui.
Voilà. Donc, en lui envoyant une bombe nucléaire sur la gueule. Mais Tony Stark a un peu des remords. Tout le monde n'est pas forcément partant pour le faire. Et nous apprenons enfin comment est-ce qu'il s'en est sorti. Et depuis, il erre à travers le monde en essayant de se faire discret, de comprendre comment maîtriser ces crises de folie. Et donc, un petit tour avec le Dalai Lama, l'Everest. Cette BD est très sympathique au niveau du scénario. Les dessins, franchement, sont très bien. J'aime beaucoup Lenil Francis Yu, qui avait déjà travaillé sur du Wolverine auparavant. Qui, en plus, j'ai l'impression qu'il a travaillé directement au crayon, que c'est de l'ancrage numérique qui a été fait au niveau de la couleur, ce qui fait vraiment quelque chose de très sympathique au niveau de la forme. Si, franchement, le crossover Ultimatum avait été au niveau de ce crossover, que ce soit dans la narration et dans le dessin, bah, ça l'aurait rendu bien plus intéressant.
Oui, oui. En même temps, il serait que moi j'ai bien aimé les petits passages où il y a un dialogue entre Wolverine et Hulk, où il y a vraiment, je monte la page, c'est vraiment des plans, t'as l'impression presque de voir un Ennio Morricone, quoi. T'as le gros plan sur les yeux et chacun est en train de parler. Et pour une fois, on découvre que Hulk n'est pas, même quand il est transformé, il n'est pas justement une sorte de gros monstre vert qui est toujours en train de taper sur tout ce qui bouge. Vraiment là, il a une réflexion, il peut parler, il communique.
Nous sommes dans la version Ultimate de Hulk, où effectivement ils ont réussi à obtenir une sorte de mélange entre le Hulk intelligent de Peter David. On est plus proche du Hulk gris qu'on a eu à une époque, qui était pas trop bête, mais pas non plus le génie que peut être Banner à la base. Donc c'est une BD que nous recommandons énormément. La mise en page est super. Nous verrons apparaître She-Hulk, qui n'est pas forcément celle que nous croyons. En plus, si vous arrivez encore à le trouver, bah, Pour du Marvel, il n'est pas trop cher parce que à 5,60€, les je ne sais combien de numéros, les 6 chapitres, donc 6 fois 22 pages, bah franchement, à part, si on compare aux 4€ des 44 pages des Ultimate, enfin de la saga Ultimatum, ça vaut le coup, c'est quelque chose que je recommande grandement.
Et qui peut se lire tout seul, sans avoir lu ce qu'il y avait avant.
Voilà, la lecture indépendante fonctionne très très bien. Passons maintenant à l'univers Marvel classique, entre guillemets. Nous arrivons sur Spider-Man hors série numéro 29, Time Storm 2009-2099. Replaçons les choses dans le contexte. Il y a quelques années, je crois que c'était en 99 ou en 89, en 89 sans doute, ouais, plutôt. 99 ? Ah, bon, le doute existe. Marvel a voulu créer un univers parallèle qui se passait dans le futur, donc l'univers de 2099, avec une réécriture de tous les personnages classiques dans un univers fantastique, ambiance un peu cyberpunk, très intéressant, avec des corporations qui dirigent le monde, et des séries, pas toutes fantastiques, mais la plupart du temps très très originales. Par exemple, si l'on prend l'histoire de Spider-Man, nous avions un personnage qui, pour le coup, était adulte, qui travaillait pour une corporation, qui obtenait les pouvoirs de super-héros, mais l'histoire était quand même assez différente. Il y avait un grand changement en dehors du costume et des pouvoirs de Spider-Man qui étaient assez proches. C'était quelque chose de très différent. Une autre série de 2099 permettait à Stan Lee de revenir à l'écriture en lançant Ravage 2099, un personnage totalement nouveau et inédit pour cet univers, que Stan Lee aurait pu oublier au fond des cartons. En gros, nous avions une sorte de éco-warrior qui luttait contre les corporations qui polluaient. Les dialogues étaient minables au possible. Nous avons beaucoup rigolé avec mon frangin à l'époque quand on avait lu ça. Dont surtout la fantastique phrase « La solution, c'est l'immersion !» Digne des meilleurs dialogues. Bah, en gros, moi, ça m'avait donné l'impression que Stan Lee, bah, il écrivait comme quand il a inventé les super-héros dans les années 60-70, ce qui n'était pas terrible. D'autres grandes surprises, comme par exemple Ghost Rider 2099, qui avait vu apparaître Chris Bacalo et Ashley Wood au dessin, ce qui, deux auteurs qui sont maintenant très très connus, et qui œuvraient dans une histoire de matrice, de cyberpunk, avec des intelligences artificielles, quelque chose de vraiment très très rare dans la bande dessinée de l'époque. Je passe rapidement sur les X-Men 2099, qui était assez peu intéressant. Pour venir sur Doom 2099, une fantastique série qui traitait de Fatalis, qui en gros rappliquait, découvrait qu'il était en 2099, comme s'il venait du passé en gros, voyait que la Latverie appartenait à quelqu'un d'autre, et allait lui péter la gueule pour essayer de reprendre le contrôle de la Latverie. Et puis il enchaînait en se disant que le monde était dirigé par la corporation et que c'était mal, et il décidait de s'attaquer aux corporations. Donc, 2099, l'univers a duré quelque temps avant de se casser la gueule grandement. Et ce numéro hors série est un crossover entre le Spider-Man de notre univers actuel et les personnages de 2099 du futur. Mathieu, qu'est-ce que ça raconte, histoire que tu parles un peu ?
Je suis en train de me percevoir en fait que le graphisme est différent en fait dans les deux parties du livre. C'est oui. Juste, voilà. Il y a deux dessinateurs différents. C'est vrai qu'en le lisant au fur et à mesure, je n'en étais pas aperçu. Mais maintenant, ça me saute un petit peu aux yeux, parce qu'il y en a quand même certaines qui sont quand même du coup vraiment old school comme dessin, quoi. Surtout la partie de la fin. Enfin, surtout le milieu, on va dire, et la fin.
On reviendra sur le dessin tout à l'heure. Parle-nous de l'histoire. Qu'est-ce que ça raconte que tout ça ?
L'histoire, c'est donc on a un Punisher qui revient en fait en 2009 pour.
Donc le Punisher du futur.
Le Punisher du futur.
Oui, ça va. On est dans les voyages dans le temps, vous savez, c'est jamais très très clair. Donc le Punisher du futur revient dans le présent.
En 2009, et il vient pour tuer Spider-Man.
D'accord, comme ça, il...
Disons qu'en fait, il entend des voix. Il y a Thor qui lui dit qu'il faut qu'il aille dans le passé, il envoie là, et il lui dit qu'il a des choses à faire.
Oui, dans l'univers 2099, Thor est considéré comme un vrai dieu et a ses vrais croyants en Thor.
Donc du coup, en fait, il ne tue pas réellement Spider-Man, il le renvoie simplement en 2099. Il l'envoie plus qu'il le renvoie, mais il l'envoie en 2099. Et Spider-Man donc, se retrouve dans le futur. futur dans lequel on se retrouve dans l'univers de corporation que tu parlais tout à l'heure, avec donc une société qui, justement, grâce à un mécanisme, arrive à voyager dans le temps, arrive à parler avec des personnes qui voyagent dans le temps.
Alors, tu noteras par rapport à ce que j'ai dit, je t'ai raconté tout à l'heure, toi tu connaissais pas vraiment l'univers 2099.
Non.
Qu'on réassiste à la genèse de ce Spider-Man 2099. Et que ça n'a rien à voir avec ce que je viens de te raconter.
Non, ça n'a rien à voir, a priori. On est bien d'accord.
Donc, bien entendu, l'objectif de Spider-Man va être de réussir à revenir à notre époque. Clairement, ce numéro peut se lire très indépendamment de tout ce qui se passe autour. Je veux dire, Spider-Man, c'est Spider-Man. On s'en fout un peu de ce qui lui est arrivé dans ces derniers événements. Mm-hmm. L'univers de 1099, en fait, n'a rien à voir avec ce que moi, j'avais pu lire il y a quelques années. Je pense que c'est à la fois pour justifier les changements du voyage dans le temps, que c'est à la fois pour permettre au lecteur d'arriver dedans tranquillement. Avant de revenir sur le côté critique au niveau du scénario, où nos avis sont partagés avec Mathieu, nous allons revenir sur le dessin, effectivement, où nous avons plusieurs dessinateurs qui passent d'une partie à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ce Timestorm 2009-2099, qui est un crossover, nous avons trois numéros d'une série qui s'appelle Spider-Man et Wolverine, et quatre numéros d'une série qui s'appelle Spider-Man et Wolverine, et un Spider-Man et un Wolverine vraiment dédié au crossover. Au niveau du dessin, donc, ça passe. Nous avons Eric Battle et Wes Craig, Brian Reed au scénario. Au niveau du dessin, on passe sur des styles très variés en fonction du rendu voulu. Moi, j'ai énormément apprécié le passage qui semble dessiné par Fraser Irving. Et non, il y a d'autres dessinateurs, attention. Hein. Donc, par Fraser Irving, qui est le côté X-Men du crossover, qui a un style vraiment très, très sympathique. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi.
Bah, c'est le côté un peu old school que je disais. C'est vraiment, tu retrouves le Wolverine avec sa petite tenue jaune à l'ancienne. Et puis même le graphisme, je trouve qu'il a une petite couleur un peu passée qui rappelle vraiment les Marvel ou les Strange, quoi.
Non, moi, j'aurais trouvé, au contraire, que c'était le côté le plus moderne qu'on ait pu avoir. Alors que quand on arrive sur...
Ouais, mais enfin, ça, c'est là, ce que tu es en train de monter, c'est la page, c'est les pages suivantes. Je trouve que c'est classique par rapport à maintenant.
Voilà.
Les pages d'avance, je trouve que c'est vraiment...
On a des pages très old school dans des publicités, des fausses publicités. En gros, on retrouve un peu ce qui avait pu être fait sur du Robocop à l'époque. Mm. Donc, sur du Robocop. Où, effectivement, alors là, pour le coup, le dessin est très, très daté, de façon volontaire, car il est censé mettre en scène une sorte de Spider-Man qui vante les qualités des nouveaux produits des corporations. Donc, clairement, au niveau du scénario, moi, j'ai été assez déçu, car je n'ai pas retrouvé d'univers vers 2099 que je connaissais, et que j'ai eu l'impression que toutes les bonnes idées avaient été enlevées. Exemple... Le Ghost Rider ressemble à une version tellement épurée du personnage de l'univers original que c'en est dommage. Le Spider-Man 2099, c'est encore l'histoire du jeune qui découvre des pouvoirs en se retrouvant victime d'une expérience où il n'a rien compris. Ça n'apporte rien au Spider-Man classique, en dehors qu'on est en 2099.
Ouais, mais tu retrouves les deux images du film.
Les deux images du film.
Il se fait mordre par l'araignée et ensuite tu le retrouves la tête en bas avec le masque remonté jusqu'au nez. Quoi. L'image mythique du premier Spider-Man, quoi, là où il se fait embrasser par Kirsten Dunst.
Ouais, enfin bon, d'un autre côté, le film c'est le film. Je lis pas des comics pour revoir le film. Quoi. Enfin, j'ai été un peu déçu, d'autant que donc, le personnage de Doom, qui était la meilleure série de 2099, revient. En fait, beaucoup d'éléments des intrigues de la BD, des histoires originales sont replacés dedans, mais dans un contexte différent. Et je trouve, quant à moi, quand on a lu l'univers 2049 avant, c'est un peu décevant. Par contre, apparemment, quand on ne l'a pas lu, c'est une BD qui se lit très bien.
Qui se lit très très bien, avec vraiment un petit mélange, on va dire. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre 2009 et 2099, mais bon, comme le dit Wolvie... visiblement, tous ces futurs sont à chier, quoi. Mais sinon, voilà, c'est vraiment... On évolue petit à petit, on gravit des petits morceaux à gauche, à droite, et au final, j'ai trouvé ça assez agréable à lire. Même si on se retrouve avec deux Spider-Man qui sont très différents. Il y en a un qui est le Spider-Man qui a vraiment des super pouvoirs, qui peut sortir la toile par ses poignets. Et on a donc le Spider-Man de 2009 qui, lui, au contraire, a toujours ses petits réservoirs dans les poches et qui, à un moment, se retrouve à court, donc il n'a plus de toile et il est obligé de marcher.
Oui, moi, le seul truc intéressant que j'ai trouvé à ce niveau-là, c'est qu'on a un vieux Spider-Man, enfin celui de 2009, qui est vieux, qui est expérimenté, qui rencontre un jeune Spider-Man qui découvre ses pouvoirs, qui découvre les responsabilités, machin chose. Enfin, c'était le point un peu intéressant, mais aller jusque-là... Bref, si vous n'avez pas connu l'univers 2099, c'est apparemment une saga à recommander pour 5,60€ pour 6 numéros à l'intérieur, donc 6 fois 22 pages. C'est un bon rapport qualité-prix pour du comics vendu en kiosque. Nous passons à la suite. Donc, nous avons traité de tout notre easy reading. Et nous allons maintenant parler des plus ou moins sorties du mois.
Sorties du mois. On commence par quoi ? Qu'est-ce qui te tente ?
On va commencer par du comics. On va parler de la Brigade Chimérique, qui est une expérience que je trouve très intéressante. La Brigade Chimérique, c'est la tentative de faire du comics français. On va dire, de l'histoire de super-héros français. Donc, c'est un projet.
Comme oui. Celle-là, c'est moi qui les ai achetés et que je les ai donnés. Est-ce que du coup, on ne veut pas dire quand même que c'est un peu mes BD aussi ?
Oui, mais tu me les as offerts, tu me devais des sous.
Ouais, mais quand même, du coup, ça fait.
Je pense que nous réglerons tous nos problèmes financiers hors antenne.
Non, mais comme ça, on peut dire aussi que toi, j'amène un petit peu ma contribution. C'est pour dire que voilà, il n'y a pas que tes bandes dessinées. Quoi,
c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas que mes bandes dessinées. Et je pense que.
Celle-là, c'est mon argent qui l'a payé.
Enfin, oui, mais placé. Tant d'argent que tu me devais. Enfin, ouais, mais c'est bon, placé, passons. Moi. La Brigade Chimérique. Donc, la Brigade Chimérique est un projet mené par Serge Le Mans, Fabrice Collin, Jess au dessin et Céline Bessonneau à la couleur. C'est un projet très original, très intéressant. L'idée, c'est. De se poser la question de que sont devenus les super-héros européens. Pourquoi est-ce que le genre super-héroïque a grandi aux États-Unis, alors que si on se replonge dans tous les romans pulp européens et français, donc en partie de la fin du 19e et du début du 20e, on retrouve des archétypes très très proches du super-héros actuel. Et des héros pulp américains, qu'on retrouve d'ailleurs en clin d'œil dans cette BD. Pour lier le fond à la forme, on se retrouve avec des pseudo-recueils. En fait, chaque numéro des Brigades Chimériques contient deux épisodes qui font dans les 22 pages, ou 24, un truc dans le genre, qui, dans un format comics, et ça sort mensuellement, il me semble. Les trois premiers tomes sont sortis mensuellement. Il y a 6 tomes de prévu, il va y avoir une pause entre le tome 3 et le tome 4, que j'attends avec assez d'impatience. Qui sont ces héros que nous rencontrons ? Thio ?
Ah là, tu me prends à froid. Les héros qu'on rencontre. Mais en fait, on se retrouve presque dans un monde où on est après la Première Guerre mondiale. Donc, je crois que ça se situe dans les années 20.
C'est ça.
Voilà. Et on se retrouve donc avec des personnages...
Années 30. Nous sommes en 1938 dans le prologue. C'est écrit au dos du bouquin, à griller.
Je l'ai pas assez bien lu. Et en fait, on se retrouve avec des personnages qui sont historiques. Marie Curie, sa fille. Et finalement, donc, un monde qu'on connaît, on va dire, un petit peu transposé du XXe siècle tel qu'on le connaît. C'est-à-dire avec une sorte de fascisme en Espagne et puis un côté Est qui est assez particulier.
Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que c'est un contexte volontairement intéressant.
Mais oui, mais il n'est pas clairement installé aussi, enfin, comme ça l'était à ce moment-là réellement.
Alors, moi, l'impression que ça me donne, c'est que je ne sais pas comment va évoluer la série, c'est que l'explication que vont trouver les auteurs pour expliquer la fin des super-héros européens, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Que ce soit la Deuxième Guerre mondiale qui est, je ne sais pas, faire perdu l'espoir, faire perdu cette possibilité, ou bien alors tous les super-héros ont émigré aux États-Unis, sachant que la plupart des super-héros américains sont juifs quand même. Ce n'est pas une mauvaise raison. Donc nous retrouvons avec une histoire où on va suivre tous ces personnages dans un contexte sociopolitique assez original, assez étrange, avec plein de recherches sur les surhommes. Les surhommes sont connus, sont reconnus. Des personnages qui sont issus de la littérature populaire de l'époque, Donc on retrouve par exemple des personnages comme le Nick Talop, le Docteur Mabuse. Les auteurs ont été chercher vraiment, leur site est très bien fait là-dessus, ils expliquent un peu tout. Dans ces vieilles histoires, pour les remettre en forme de façon moderne. Qu'as-tu pensé de cette approche, Thio ?
Au risque en fait, de me répéter par rapport à tout à l'heure, moi ce qui m'avait quand même vraiment plu dans cette histoire, c'était vraiment ce mélange d'historique et d'expérience un petit peu mystique, on va dire, en utilisant donc des personnages qui sont réels, André Breton, Léa Curie et Georges Sand.
Qui pour le coup s'appelle autrement.
Qui s'appelle autrement, mais quand on voit les images, quand on voit la couverture du tome 2, on sent bien quand même que
l'inspiration est flagrante.
L'inspiration est plus que flagrante, quoi. Mais du coup, voilà, c'était vraiment cette explication-là des personnages et qui ont chacun en fait une petite expérience mystique. Georges Sand, par exemple, qui est schizophrène.
Oui. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que ça ne demande pas, pour apprécier cette bande dessinée, pleinement, à sa juste valeur, d'avoir déjà une culture générale du sujet ? Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'époque. J'ai reconnu des clins d'œil à l'histoire de la bande dessinée, un petit peu à la culture populaire de l'époque, parce que je m'intéresse beaucoup à la culture populaire. Mais est-ce que tu crois pas que quelqu'un de complètement néophyte risque pas d'être un peu perdu devant toutes ces références qui demandent une certaine érudition?
Non, parce qu'en fait, c'est vraiment des références qui sont juste là, on va dire, qui jalonnent l'histoire, mais qui sont pas présentes, qui sont pas essentielles. C'est juste des petits passages où on va parler, par exemple, donc du surréalisme avec André Breton, qui est croisé, je crois, lors d'un vernissage d'exposition d'un auteur mexicain. Et là, je cherche juste, avec en plus, donc, dans les images, des petits passages sur justement, voilà, tout ce qui est, par exemple, voilà, exposition internationale du surréalisme, donc des petits encarts où on a des
documents historiques.
Des documents historiques. Mais en fait, ils sont pas. Si on ne sait pas qui c'est, si on ne sait pas qui est André Breton, ça se lit quand même. C'est un personnage qui est dans l'histoire. On n'a rien de plus à en savoir, mais j'ai trouvé que ces petits clins d'œil étaient quand même assez sympathiques parce que moi j'ai trouvé que ça ancrait bien l'histoire dans le réel.
D'accord, ça ne demande pas d'avoir une maîtrise en histoire de l'art, en histoire et une grande culture générale. Par contre, ça peut encourager à aller s'y intéresser.
Du coup, oui.
D'accord. Donc, la Brigade Chimérique est donc, comme vous l'aurez compris, un projet que moi, personnellement, je trouve très, très intéressant. Les dessins sont vraiment sympathiques. Jess, ça fait un bon mélange entre un côté européen et une mise en page, une narration très comique, en fin de compte. Un côté décousu, parfois, qui rappelle de grands moments de la bande dessinée européenne. C'est vrai que, de temps en temps, certaines mises en page vont penser à du Andreas, voire du Marc-Antoine Mathieu, par certains moments. Je pousse un peu, peut-être, wow, avec le mot Marc-Antoine Mathieu.
Ça lui fera plaisir, en tout cas, je pense à elle.
Oui, oui. Enfin, bref, quelque chose de qualité. Et c'est vrai que voir un super chien tuer un robot nazi, déjà montre que cette BD n'est pas forcée d'être prise au premier degré, avec ce côté qui demande une grande culture. Quelque chose d'autre à ajouter, Thio ?
Le petit personnage qui est, voilà, juste celui-là. C'est le tout début du premier tome, en fait, et il se retrouve dans une sorte de conférence, je crois, c'est justement dans
Conférence
internationale à Métropolis.
Métropolis de Fritz Lang, pour le coup.
Voilà, et du coup, on parle donc, tous les pays sont présents, dont les Américains, qui sont présents avec leur super-héros.
L'ombre est présente.
C'est l'ombre ?
C'est The Shadow, l'ombre. Nous avons le Docteur Savage. Et nous avons
l'arme secrète des Américains.
Qui s'appelle Steel, un truc comme ça ?
Steel, oui, il me semble,
voilà,
comme ça, oui.
Qui est un clin d'œil très clair à l'imagerie de Superman, même si, pour le coup, je pense, pour des questions de droit, ils n'ont pas pu l'utiliser tel quel. Par contre, The Shadow et le Doc Savage, leur imagerie et leur nom sont quasiment utilisés tels quels si on accepte la traduction du nom de The Shadow. Donc, qui sont des héros pulp américains très classiques de l'époque.
On passe à la suite ?
On passe à la suite. Nous allons rester, continuer dans la vraie BD américaine, la BD d'hommes, la BD de garçons. Nous allons attaquer The Boys de Garth Ennis et Derek Robertson. Mais c'est de la bande dessinée qui en a.
En même temps, tu parles de bande dessinée américaine avec un... Il n'est pas anglais ?
Oui, il est anglais, oui, je sais. Voilà, Garth Ennis est anglais, oui, je sais. Mais bon, c'est édité chez les Américains, même si l'histoire de l'édition de The Boys, hein, c'est particulière. Nous en sommes au tome numéro 4. Que raconte The Boys ? Veux-tu... Vas-y, je pense que je parle trop, on va laisser un peu parler, tu vois.
Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte en fait l'histoire des super-héros, deux super-héros un peu différents du monde qu'on pourrait... Enfin, du monde de Marvel... Ou okay. Du monde DC, mais il y a des super-héros, oui. Il y a donc aussi des super-héros de grande classe et des super-héros, on va dire, du petit village, quoi.
Bon, et... clairement, oui, les super-héros de The Boys, tels qu'ils sont présentés, donc c'est aucun univers connu, hein, c'est un univers...
Oui, non, mais justement, c'est vraiment bien loin de ce que tu as chez Marvel ou chez DC, quoi.
D'accord. Donc c'est des inspirations... Ouais, on pourrait dire que un grand pouvoir apporte une grande connerie, en gros. C'est un peu...
C'est un peu l'idée, oui. C'est un peu l'idée de Garth Ennis. Et du coup, on se retrouve avec un petit gars qui lui, il est écossais, je crois, non ? Ou il est anglais, c'est sûr.
Ouais, enfin, anglais. Ouais,
il est anglais. Il est anglais.
Il est de The United Kingdom. Ouais. De quel côté, on ne sait pas trop. Peut-être écossais, effectivement.
Et donc, il est anglais. Petit Huggy. Et petit Huggy, en fait, il se retrouve, je raconte le début. Hein.
Oui, oui.
Il se retrouve avec sa copine, tranquille. C'est love, love, fleur bleue, je veux dire. On a les petites images, limite les petites pâquerettes et les petits papillons qui volent de partout.
Bon, déjà, c'est surprenant. Garth Ennis, auteur de Preacher, ne nous a pas vraiment habitués à ça.
Oui, mais justement, c'est la suite après. Et là, d'un coup, malheureusement, arrive un super-héros en slip qui malheureusement tue la petite amie de Tiki.
Il la tue. Et là,
en fait, il la tue pas. C'est qu'en fait, ils sont en train de... Comment on pourrait dire ? C'est, tu sais, ils se tiennent main dans la main et ils font...
Ils font une ronde main dans la main. On imagine chanson des années 70, voilà. Flower Power et compagnie.
Et d'un coup, il y a un truc qui arrive à environ à Mach 12 et qui arrache les bras, enfin qui arrache la petite copine, mais il lui reste, à petit Huggy, il lui reste que les mains et les avant-bras dans ses mains à lui. Et,
ce qui est beaucoup plus le ton de Garth Ennis.
Et là, d'un coup, on se retrouve avec la petite copine qui est à peu près incrustée dans le mur de la maison qui était juste à côté.
D'accord. Donc, train passait par là, lutter contre un super vilain et n'a pas fait attention aux civils.
Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est comme il dit, c'est. Voilà. On peut en perdre.
Hein. Oui. Dégâts collatéraux.
Dégâts collatéraux, exactement. Et donc, là, à ce moment-là, on se retrouve à transiter vers les États-Unis et vers.
The Boys.
The Boys.
Évite de faire des grands silences en montrant le bouquin.
Mais je te le montre parce que c'était...
Moi, je le sais. Pour que, du coup, mais les gens, la suite, eux, qui nous écoutent...
Parce que là, du coup, maintenant, il faut que tu ressuscites le personnage.
Donc, petit Huggy, en fait, est recruté par une équipe qui se fait appeler The Boys. Ce sont les gars qui sont là pour surveiller les super-héros et s'occuper d'eux quand ils merdent, quand ils font des conneries. Pourquoi ? Parce qu'effectivement... connaissant la nature humaine, Garth Ennis, qui n'aime pas trop les super-héros à la base, hein, les mecs en slip, part du principe que le jour où on a des grands pouvoirs, on a plutôt tendance à vouloir en abuser.
Exactement.
Ce qui n'est pas totalement faux si on regarde un peu le monde de maintenant avec un œil cynique. Et eux, ce sont des gens sans pouvoir qui tout de même prennent une drogue qui leur en donne. C'est le truc un peu louche de l'histoire.
C'est ça, le produit V, non ? Le produit V, je crois.
Ouais, c'est le produit V, il me semble. Le truc un peu louche de l'histoire, pour pouvoir, bien sûr, lutter contre eux. Mais leur arme, c'est pas d'aller latter les gueules des super-héros, c'est de ternir leur réputation, c'est d'avoir des moyens de pression sur eux, car en fait, un super-héros, c'est un peu un produit commercial dont il faut faire attention à l'image. Et eux déterrent tous les petits secrets mauvais des super-héros, pour les faire tomber et leur faire savoir qu'ils ont intérêt à se tenir à carreau et à ne pas faire de conneries. Depuis le premier numéro de The Boys, alors les premiers numéros de The Boys étaient édités chez DC Comics, Mathieu me montre des moments hilarants de la BD en même temps que j'essaye de parler, ça a tendance à me déconcentrer. Donc sorti chez DC Comics, bien entendu, c'était un petit peu trop... un petit peu trop dur pour un éditeur grand public, ce qui fait qu'au final, c'est passé chez Dynamic Comics, je crois. Ça doit être écrit en petit dans un coin.
Petit alors.
Oui, oui.
Dynamite Comics.
Dynamite, pas Dynamite, voilà. Dynamite Comics. Et,
Dynamite.
Ouais, j'avais dit Dynamique.
Ah, excuse-moi.
Et donc, on suit des histoires. Alors, ça peut sembler bourrin, ça peut sembler violent. Il y a du cul, il y a du sang, il y a plein de choses. Mais c'est vachement plus subtil que ça n'en a l'air. Voilà, Thio est en train de feuilleter le bouquin et revoit les grands moments. C'est plus subtil que ça n'en a l'air. En parallèle de la découverte de Petit Yogi de cet univers, hein, de la façon qu'il y a de gérer les gens à super pouvoir, nous suivons en filigrane depuis les premiers numéros. Thio, vas-y.
Excuse-moi, pardon.
Qui suivons-nous en filigrane depuis les premiers numéros ?
Eh bien, on suit donc une super-héroïne. Une jeune héroïne en fait qui était on va dire la petite héroïne d'un petit village et qui finalement comme elle a commencé à avoir un petit peu d'envergure, un petit peu connue, elle s'est retrouvée à être recrutée dans l'équipe des 7, je crois.
Ouais, les 7 qui sont un peu la JLA
de
les vengeurs de ce monde, qui sont les super-héros les plus connus et les plus célèbres. Sauf que elle a eu droit à un petit rituel d'initiation auquel elle s'attendait pas, sachant que elle est très pieuse et très
puritaine,
oui.
Et du coup, elle se retrouve à...
Tiens, c'est toi qui vas dire les gros mots pour ce coup-là. Donc, moi, je vais rester chaste, prude. Thio, quel est donc ce petit rituel ?
Disons qu'elle se retrouve, pour reprendre... parce que là, on est dans le tome 4 et on se retrouve avec, on va dire... Elle se retrouve dans une église et elle, qui prie beaucoup, se retrouve à parler avec Dieu. Et elle se dit qu'elle a dû faire beaucoup de choses pour se retrouver parmi les 7 et finalement, ça en valait peut-être pas la peine. Disons que les 7 sont composés essentiellement d'hommes, en grande majorité, bizarrement. Hein. Et les hommes lui ont demandé, tous ensemble, de, si elle voulait rentrer dans les 7, d'effectuer des petites gâteries apéritives, on va dire. Et malheureusement, elle a cédé, étant donné qu'elle voulait absolument faire partie des 7.
Et puis qu'elle était un peu perdue et que ça n'avait pas trop...
Elle ne savait pas trop si elle devait accepter ou pas. Et finalement,
elle était un peu largue. Bref, quoi qu'il en soit, cette jeune fille un petit peu perdue, qui se retrouve à avoir un petit peu dû faire des choses qui ne lui ressemblent pas, erre dans un parc où elle rencontre Petit Yogi, qui lui aussi se pose des questions, et ils sympathisent. Et nous suivons donc dans cet épisode, en parallèle, la relation de Petit Yogi et de cette héroïne, dont malheureusement j'ai pas retenu le prénom.
Mais c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure, en fait. Voilà, sur ça, je tourne les pages.
C'est
mais
assez surprenant, peut-être qu'il n'y est pas, en fait. Donc ouais. De cette pauvre petite super-héroïne un peu larguée, nous suivons en parallèle donc, leur vie. Et c'est un numéro qui, de façon très surprenante, hein, en dehors même s'il se permet des excès crades...
Stella, et oui,
voilà. Même s'il se permet des excès, comme d'habitude chez Garth Ennis, que j'ai trouvé très subtil. Qu'en penses-tu, Thio ?
Là encore une fois, j'étais un peu zappé. Hein, je suis vraiment désolé. Tu parlais de quel type d'excès toujours dans le scénario
Dans le scénario, on a quand même des éclatages de tête, un clignot du sang de la période, un nombre de choses assez osées. Mais quand même, on reste. Enfin, je trouve que les personnages sont très bien travaillés psychologiquement, ce qui est assez surprenant dans ce genre d'histoire.
Mais surtout, c'est que là, en fait, on est vraiment arrivé à avoir on va dire. On a eu la présentation des personnages avec tous leurs travers, et puis là, on est en train de les voir un petit peu vivre. Donc, on voit Petit Yogi, donc ce qui se pose comme question, puis comment est-ce qu'il vit aussi avec les boys, parce que finalement, les boys, on les connaît presque pas. On sait juste que ce sont donc des humains qui prennent une petite drogue de temps en temps pour pouvoir aller tâtonner la face au Superwoman Sleep. Et aussi, donc, Stella, qui finalement n'est pas qu'une super-héroïne, qui a aussi une vie en dehors. Et tout ça fait que ça se passe bien. Bon, après... au niveau de la mise en page, moi j'ai trouvé que c'était excellent avec des petits passages à la limite angélique où Petit Yogi se retrouve avec un énorme rayon de soleil alors qu'il pleuvait juste à... Enfin, pas qu'il pleuvait, mais on a l'impression qu'il faisait un peu moche dans le parc.
Ouais, tu trouves qu'il y a une thématique assez angélique dans l'histoire
Finalement, on se retrouve presque à ce que les boys sont un petit peu des anges.
Malgré tout leur travers, quand même. C'est pas détendre.
C'est pas détendre, mais justement, par exemple, si on prend la petite Yugi dans le parc, d'un coup, on a le petit rayon de soleil.
Oui, c'est vrai, au-dessus de sa tête.
Au-dessus de sa tête.
Un petit côté anglo-art.
Anglo-art, voilà. Après, on a le petit passage avec, la, avec le français, qui est donc un des The Boys qui se retrouve à aller voir un mafieux avec une belle lampe juste au-dessus de sa tête qui lui fait une magnifique auréole quand il lui dit qu'il faut...
Oui, clairement, au niveau du dessin, ça ne peut pas être une coïncidence. C'est assez franc, oui.
Bon, après, c'est peut-être un petit peu... c'est un petit peu, on va dire, les anges de l'Ancien Testament. Hein. C'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais à peu près t'éclater la tête juste dans la case d'après.
Mais oui, bon. Juste dans la case d'après, on a un beau tête-à-tête fait par le français qui prend deux gars pour leur éclater la tête l'un dans l'autre. Et... je ne suis pas sûr que ça fasse autant de sang dans la vraie vie.
Surtout, c'est qu'en fait, vu qu'il éclate tête contre tête, comment est-ce que la molaire fait pour sortir ?
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est des histoires de super-héros. C'est... Donc, The Boys, bah, c'est du grand Eric Robertson au dessin. Franchement, je le trouvais très à l'aise, beaucoup plus que dans les précédents tomes. On sent qu'il commence à vraiment s'approprier cet univers. En parallèle, j'ai lu récemment donc, le dernier Transmétropolitan qui est sorti, qui se passe quand même quelques années, qui est sorti aux États-Unis quelques années avant The Boys. Et j'avais été un petit peu déçu. Et là, franchement, c'est du grand Eric Robertson, je trouve.
Non, moi, je valide vraiment, vraiment très très bien au niveau du dessin. Vraiment une bonne ambiance. Et puis voilà, les personnages qui sont vraiment en train de s'étoffer dans ce tome 4. Le petit Yugi a vraiment.
La petite question intéressante, si on n'y connaît rien en super-héros, est-ce qu'on peut apprécier The Boys ?
Ben, la preuve. On a un ami en commun qui n'y connaît pas non plus, on n'a pas du temps que ça, et finalement a super bien accroché à The Boys.
C'est vrai qu'effectivement, un de nos amis qui est un non-lecteur a lu des The Boys avec un grand plaisir. Bon, il a une petite culture super-héroïque, mais oui. Très axée sur les films, les dessins animés, et donc un petit peu la culture super-héroïque grand public. Donc effectivement, bon, bah donc, à recommander, bien sûr à commencer par le 1, parce que c'est une histoire qui reste à suivre. Restons dans le trash, entre guillemets.
Spirou.
Non, nous allons parler d'Apisex de Zep, qui a beaucoup fait parler de lui chez Delcourt, pour une simple et bonne raison, car le Apisex de Zep est réservé aux adultes. Zep est l'auteur de Titeuf. Mon Dieu, mais les auteurs de bandes dessinées pour enfants auraient-ils une vie sexuelle ?
Non, c'est exactement comme les enseignants qui vivent en fait à l'école et qui ne sortent jamais, et donc ne vont jamais faire des courses, ne vont jamais au cinéma.
Et ne font pas d'enfants, donc.
Et ne font pas d'enfants, donc.
D'un autre côté... Je les comprends. Donc, ce Happy Sex, qui est constitué de petites histoires qui font entre une et deux pages, qui racontent des anecdotes autour du sexe. Alors, on pourrait s'attendre, au côté du titre, à quelque chose d'un peu graveleux à la Villemain.
Oui, surtout plus que, comme je te disais, la première fois qu'on en a parlé, la première image fait énormément penser à un des dessins de Villemain sur... sur une partouze, enfin bon, voilà.
Voilà, ok.
On rentrera pas plus dans le détail.
Un petit côté humain, et pourtant, j'ai trouvé cette bande dessinée très... Bon, on voit du cul, on voit des nichons, on voit du sexe, mais ça reste assez prude, assez joli. Les gags... Oui, bon, d'accord, il vient de tomber sur la page sadomaso. Les gags sont, en fin de compte...
très léger.
Très léger, des histoires qui pourraient être des histoires du quotidien. Je trouve que c'est un œil sur le sexe très intéressant parce que, bah pour une fois, on arrive à nous parler de cul sans nous parler de performance, sans nous parler de... Enfin, comme quoi, c'est, ça fait partie de la vie. Ah, ça y est, tu es retombé sur une page marrante. Le petit lutin. Le petit lutin, voilà. Monsieur lutin. Donc... Voilà le rire de Mathieu qui a déjà lu l'album, donc qui, en le revoyant, rit de tout cœur, montre que ça marche assez bien.
Oui, non, vraiment, ça marche, ça fonctionne très très bien, mais surtout, c'est que c'est pas graveleux, c'est très léger. Bon, il y a quand même des passages qui sont un peu rudes, et c'est pour ça que sur la couverture, il y a marqué réservé aux adultes.
Oui, ça reste réservé aux adultes, voilà. Je veux dire, on a du sexe clairement exposé.
Bon, en même temps... Je dirais que le réservé aux adultes peut faire croire aussi que connaissant Zep, c'est une blague. Donc du coup, je me dis même que certains auraient peut-être même pu l'acheter en se disant que ouais, non, c'est pas vraiment vrai que ça va arriver aux adultes.
Oui. D'un autre côté, vu les sujets, vu comment c'est abordé, clairement, à 16 ans, j'aurais très bien lu ça sans forcément être choqué. Peut-être émoustillé à 16 ans, mais pas choqué.
Émoustillé, oui, quand même.
Voilà.
Quoique, finalement, le dessin de Zep, peut-être pas. Mais...
Alors, c'est pas la première incursion de Zep dans l'univers adulte. Hein. Il a déjà sorti d'autres bandes dessinées. On en reparlera peut-être dans un autre podcast parce que c'était assez intéressant. Ce sont Les Filles électriques et L'Enfer des concerts.
Exactement, oui.
Qui sont... Ah oui, le mythe de l'autofellation par Zep est toujours assez drôle. Donc, Les Filles électriques et L'Enfer des concerts qui racontaient des expériences de drague et des expériences de concerts. On reste vraiment dans la continuité, je trouve. Parce que, après la drague, le sexe, logique. Et puis, c'est vrai qu'un concert, c'est peut-être un bon moyen de rencontrer des filles. Ce sont des histoires du quotidien sympathiques. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Sappy Sex. Alors, un petit bémol sur la couverture qui est très sympathique. En gros, nous avons le mot sexe qui est troué, en fait, qui est en forme de trou.
Un pochoir,
voilà. Pour laisser apparaître les images de derrière, de la grande partouze de derrière. Alors, c'est très joli, mais c'est vrai qu'effectivement, sur ce type de couverture souple, hein, on n'est pas en couverture cartonnée, ça demande de faire très attention à sa bande dessinée pour ne pas prendre de risques.
Et donc, de ne pas la prêter à Thio. C'est ça.
Quoi, tu me l'as abîmé, c'est ça
Je crois que celle-là, c'est moi, ou c'est mon chat. C'est le chat.
Bravo. Oui. Bon, ce n'est pas grave, je m'en remettrai. Nous passons dans la comédie à De Cap et de Croc. Le tome 9 par Erol et Masbou chez Delcourt dans la collection Terre de Légende. Même si Terre de Légende apparaît écrit de plus en plus discrètement.
Je pense qu'il va finir par disparaître d'ailleurs. C'est...
Donc nous sommes à un tome 9. Replaçons De Cap et de Croc rapidement dans le contexte. Thio, je t'écoute. Oh là, la colle, tu as 8 tomes à résumer en
8 tomes à résumer en 2 secondes.
Bon, sans aller jusqu'à résumer les 8 tomes, raconte-nous un peu de quoi ça parle.
Deux personnages, donc. Don Lopé et Armand de Maupertuis.
Bien.
Qui sont en fait donc deux duellistes, hein, qui se baladent dans un monde, on va dire, de cap et d'épée. Facile. Et donc, bon, on va dire, duellistes qui se sont battus en duel déjà. Et qui vont être, par amour pour deux femmes, qui vont être, on va dire, transbahutées un petit peu dans de multiples aventures, avec des pirates, avec des peuples indigènes, et qui vont finalement se retrouver là, sur la Lune. Et sur la Lune, Ils ont redécouvert
qui ?
Le maître d'armes.
Le maître d'armes. C'est vrai que c'est le genre de BD tellement bien écrite que c'en est un peu dommage, je pense, de raconter ce qui a pu se passer avant, de raconter qui est le maître d'armes pour les gens qui n'ont pas lu les précédents tomes.
En même temps, s'ils ont raté les 8 premiers tomes, c'est dommage pour eux.
C'est vrai que c'est dommage pour eux. C'est de la très très grande bande dessinée. Les dessins sont sublimes. On est en couleur directe, il me semble. J'ai un doute sur les derniers tomes.
J'ai un doute sur les derniers tomes.
Sur les derniers tomes, j'ai un petit doute. Mais bon, les couleurs sont très très bien rendues. Le dessin est vraiment très sympathique. Les héros sont des héros, la plupart animaliers. Donc, on a un mélange entre le style animalier et le style réaliste. Il y a un humour et surtout une verve, un langage, une façon d'écrire phénoménale. C'est, pour les premiers tomes, un hommage à tout le théâtre classique, sans toutefois aller dans le côté un petit peu prise de tête que peut être Racine. Oubliez tous les mauvais souvenirs que vous avez de ce côté-là. Oui ? T'allais dire quelque chose ?
Non, non, je vais me rapprocher du micro, c'est tout. C'est
d'accord. Et dans les derniers tomes qui se passent sur la Lune, à toutes les fantaisies qu'on a pu avoir dans les Candide, les Barons de Munchausen, etc. Que dire d'autre ? Dans ce tome, les héros rencontreront de nouveau les pirates. Ils auront fort affaire avec des philosophes. Les philosophes, mon Dieu. La situation, la fin du tome précédent faisait un peu penser à l'Empire contre-attaque dans le sens désespéré. Là, vraiment, on sent qu'on est à la fin d'une grande partie de l'histoire.
Ouais. Ce passage-là,
il était. Oui, quand ils sont suivis par le caillou.
Oui. Le caillou et que t'as Euseb aussi.
Euseb, le petit lapin. Euseb, le petit lapin, dont apparemment, qui aura sa propre série.
Sérieux ?
Sérieusement, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Euseb aura sa propre série qui racontera ses mésaventures avant de rencontrer les sires de Maupertuis et
Dunlopé
des je ne sais combien. Donc, c'est très bien écrit, ça je l'ai déjà dit. Une dernière chose, il est temps selon moi, voilà, je dirais que les héros retournent un peu sur Terre. Ça fait quelques tomes qu'on se retrouve sur la Lune, alors effectivement c'est marrant, mais je trouve qu'on a un peu trop de fantaisie, qu'on va un petit peu trop loin dans les délires. Bon, je me suis toujours autant éclaté, mais c'est vrai que remettre un peu les pieds sur Terre et repartir sur un humour... et des références un peu plus classiques ne seraient pas une mauvaise chose. Tu es d'accord ou pas ?
Oui, oui et non. Voilà. Oui, parce que de toute façon, tu dévores le tome 9, tu es à fond. Voilà. Mm-hmm. Et tu te dis, bon, vivement le tome 10. Mais bon, c'est vrai que ce tome 10, de toute façon, là, l'histoire telle qu'elle est, on sait qu'on va revenir peut-être sur Terre, mais peut-être pas tout de suite.
Oui, il y a le voyage retour. Comment vont-ils faire ?
Ça, on peut faire confiance à notre savant fou, mais la fin en elle-même te dit que de toute façon, voilà, la suite, elle y est, et tu sais à peu près ce qui va s'y passer. Maintenant,
il me semble que 11 tomes sont prévus, hein, donc.
Donc voilà, 10, moi je dis le voyage retour, et 11, on est sur Terre.
D'accord, bon, on verra ça. J'espère que cette série se finira en apothéose, en beauté, car elle est vraiment superbe. Nous enchaînons... Oui, ça ne jette pas ma BD à travers le salon. Nous enchaînons sur Conte à dormir debout, tome 2 de Ced. Alors, qui est sorti, j'ai un petit éditeur qui s'appelle Macaca. Ced est un auteur qu'on peut suivre sur son blog. Je mettrai les liens sur le blog. Et qui donc, dans son premier tome... vas-y, je te laisse en parler, Thio.
Donc, dans son premier tome, en fait, nous faisait découvrir des contes revus et, on va dire, corrigés par Ced. Alors là, les tomes, les histoires de suite comme ça... Tu avais tellement une dédicace ?
Oui, j'ai eu une dédicace dans le premier tome.
Il a eu une dédicace dans le premier tome.
Et alors ?
Saleté d'auteur d'Heroic Fantasy qui dessine des armes de 5 tonnes. Eh oui.
Oui. Il faut savoir que je raconterai un petit peu l'histoire de cette dédicace juste après. Je vais laisser Thio chercher et vous raconter. Donc en gros, j'ai eu cette dédicace en fait. Je voulais obtenir absolument Féréus, le fléau de Monsieur le Chien, dont j'avais grandement apprécié les extraits sur Internet. Et pour économiser des frais de port, tout simplement, j'ai commandé chez Macaca Éditeur une autre BD et le Conte à dormir debout avait l'air sympathique. Le Féréus le Fléau était censé, pour les premiers acheteurs, être dédicacé. Bon, ça a mis un grand moment à arriver, mais j'ai reçu mon numéro dédicacé et j'ai eu l'agréable surprise de retrouver le Conte à dormir debout dédicacé lui-même. J'en remercie grandement Ced, parce que la dédicace est fort sympathique, bien dessinée. Il a dû passer un petit moment dessus, alors que il n'était pas obligé, que je ne m'y attendais pas du tout. Donc vas-y, continue ce que tu allais dire, Thio.
J'allais dire qu'en fait il a menti parce que dans le tome 2, Ralia ne trouve plus de gourchette à sa chataille, c'est faux.
Elle n'est pas dans le tome 2. Effectivement. Il ne m'a pas dédicacé le tome 2.
Bouh, c'est mal. Dans le tome 1, en fait, on a donc un papa qui essaye donc de gérer plus ou moins bien sa fille, hein, et qui lui demande donc de lui raconter des histoires. Et ce papa lui raconte tous les contes de notre enfance, contes classiques, Aladdin, La queue des animaux, qu'est-ce qu'on a d'autre, Barbe bleue. Le pont du diable, enfin bon, plein de petites histoires, et finalement il les retransforme un petit peu à sa façon, en les remettant au goût du jour, en les adaptant, on va dire, par rapport à ce que nous on fait.
Oui,
j'ai pas de phrase, je me suis bloqué sur ma phrase et je savais pas où j'allais.
Par rapport à ce que nous on fait de bien. Non,
ça ne pose la chance comme ça. Vas-y. Ouais.
Donc oui, en gros, il remet un peu sa narration au goût du jour, en rajoutant des éléments du quotidien, des éléments contemporains au milieu de son histoire, des pandas. Oui. Ced a une adoration pour les pandas. Effectivement, j'aime beaucoup ces pandas. Il explique même pourquoi les pandas ont des taches. Donc, c'était plein d'histoires courtes que j'avais trouvées très sympathiques dans le premier tome. Et j'ai eu la surprise dans le deuxième tome de me rendre compte que nous avons une longue histoire. Ce qui était quand même, quelque part, assez casse-gueule. Parce que partir... Enfin, l'exercice est très différent. Et conserver un humour sur une longue histoire me semble bien plus difficile que sur des histoires courtes.
Donc là, tu es passé sur le tome 2.
Hein, oui, je suis passé sur le tome 2, oui.
Mais je ne t'avais pas suivi, en fait, c'est pour ça.
Arrête de lire pendant que je parle.
Mais en même temps, ils sont orientés vers toi, donc forcément, je suis bien.
C'est
obligé...
toi qui les as tournés vers moi.
C'est pour que tu voyes de quoi tu parles.
C'est vrai. Merci. Alors.
Il y a eu un petit changement dans les couleurs, quand même, je trouve.
Oui, bah, déjà, je pense que. Et puis sur la façon de dessiner les cases.
Oui,
etc.,
façon de dessiner les cases.
Que...
Voilà.
On sent qu'il y a eu une grande réflexion à ce niveau-là. Donc oui, le tome 2, donc, que je disais que ça me semblait un peu casse-gueule de maintenir la tension humoristique sur un long tome, c'est pas aussi évident, surtout en racontant une histoire.
C'est clair, surtout que là, du coup, on passe quand même sur une histoire que maintenant tout le monde connaît, c'est l'histoire de Chaboté.
Oui.
Et on raconte donc qu'est-ce qui est arrivé à la suite de l'histoire du Chaboté.
D'accord.
Le retour du Chaboté.
Attention. Je vais vous donner un grand coup de main. Il n'est pas obligé d'avoir lu le Chaboté tome 1 pour lire la suite du Retour du Chaboté, car un résumé fort bien fait est présent.
Au début.
Fort bien fait, car il utilise un style graphique différent que j'ai trouvé vraiment magnifique. Je trouve que...
Ça m'a fait penser un petit peu au dessin dans Shrek.
Moi, ça me fait penser au dessin dans les Zelda sur DS, au tout début.
Alors, ouais. Bon, ok, chacun sa référence. Hein,
ouais, chacun sa référence.
Mais tu sais, le passage dans Shrek où ils sont avec le petit village.
Oui.
Voilà.
C'est du collage, en fait.
C'est ça.
C'est une technique de collage qui rend très, très bien, très sympathique. Même si le dessin de Ced est très dynamique. Un côté dessin à gros nez, hein, mais que je trouve vraiment...
Ou pas.
C'est vrai, tout le monde n'a pas de gros nez. Lui se dessine avec un gros nez. A-t-il un gros nez dans la vraie vie? Je ne crois pas. Thio vient de nous faire la superbe réflexion sur gros nez. Je vous laisse deviner la suite. Donc, le Chaboté va être... s'ennuie, il n'a plus de boulot à faire. Et va être victime, entre guillemets, d'une prophétie qu'il va devoir remplir. Et... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en dehors, je te laisserai parler un petit peu de tout ce qui est référence derrière, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté, au niveau du scénario, où on a l'impression de partir dans du grand n'importe quoi, et en fin de compte, l'histoire tient la route du début à la fin, et on a même à la fin une explication très très bien trouvée. Franchement, la chute m'a impressionné, parce que clairement, dans ce genre d'histoire-là, le côté comique, c'était pas nécessaire.
Le côté comique n'était pas nécessaire.
Non, je veux dire, sur une histoire de type comique comme celle-là, avoir une chute, je dirais, chiadée, travaillée, qui reprend plein d'éléments de l'intrigue générale, n'était pas forcément nécessaire. Et pourtant, il l'a fait, et il l'a fait très bien, je trouve.
D'accord, je vois où tu voulais. Je vois plus où tu voulais aller, d'accord.
Oui.
J'ai juste vu où tu voulais aller.
Voilà,
c'est tout.
Tu as vu où je voulais en venir. Oui, donc en gros, il y a plein d'éléments, de mystères, de petites questions, etc., qu'on pourrait passer totalement à l'as, mais qui, en fin de compte, passent très bien. Oui, parlons des références un petit peu. C'est une bande dessinée très, très, très pleine de références. Et apparemment, ça t'a beaucoup plu, Thio.
Oui, et là, du coup, tu me poses une question. En fait, où il faudrait que tu vois que je l'ai relu juste avant pour pouvoir les fois où du coup, j'ai préparé le truc. Voilà, mais bon.
Et pour le prochain podcast, on essaiera de préparer un peu mieux
du coup,
nos interventions.
Si tu me poses une question, que je puisse au moins te dire, oui, tu vois, là, c'était l'endroit. Voilà. Par exemple, j'ouvre la page où on a donc une bataille entre les chauchottes et les mecs en slip.
Cet extrait est disponible sur le blog de Ced. Ça vous permettra de vous faire une idée directement.
Vas-y. Non, j'insiste.
Donc oui, les chochottes, ce sont forcément les elfes, version Seigneur des Anneaux, et les mecs en slip, ce sont les Spartes, version 300.
C'est ça. Et donc, comme ils vont se livrer un grand combat, une fois qu'ils ont fini leur première tirade, alors que la guerre commence, ils regardent en l'air parce qu'ils attendent un signe des dieux.
Oh.
Et là, qu'est-ce qui leur tombe? Un chat.
Un chat. Tiens, d'ailleurs.
Un chat avec un chapeau. Et là, ils se disent que les dieux nous posent une colle. Et on voit même, donc, sûrement, ce cher Léonidas en train de lire le grand livre des présages.
Alors, d'ailleurs, sur ce passage-là, il faudrait vérifier. Le chat a l'impression qu'il penche de quel côté ? Sur la...
Gauche.
Gauche. Je pense, en regardant bien cette case, qu'elle mérite une analyse, car il penche sur la droite,
en fait. Sur sa droite, notre gauche.
Sur notre gauche. Seth, franchement, si tu nous écoutes, je te demanderai de faire beaucoup plus attention en dessinant, car c'est le genre de détails qui peuvent ruiner ta carrière de dessinateur. Donc, bon, clairement, moi, j'ai beaucoup apprécié. As-tu quelque chose à rajouter dessus ?
Enfin, je pourrais rajouter aussi que le shuriken lancé avec une corde, s'il tourne, la corde est obligée de s'enrouler autour. Parce que sinon, ça ne peut pas tenir comme c'est prescrit. Enfin bon, après, ce serait jouer sur les détails, mais l'ensemble de l'histoire est quand même vraiment génial.
Voilà, avec des clins d'œil à Lost. Alors, certains clins d'œil que je n'ai pas captés, effectivement.
Pourquoi le GPS ?
Alors, le GPS, ça va. Mais les petits animaux du Zodiac autour du GPS, je pense que c'est une référence que je ne connais pas du tout. Je ne vois pas de quoi ça peut parler. Donc, si quelqu'un peut m'éclaircir hein, dans les commentaires du blog ou ailleurs, ça m'arrangerait grandement parce que j'ai l'impression d'avoir raté une blague. Et j'aime pas rater des blagues. Donc, c'est grandement recommandé. Oui, il joue à la DS.
Il joue à la DS.
Ah, je t'ai dit, c'est Zelda. Donc, le chat joue à la DS. Ah oui, un autre petit coup de gueule, mais là, ça vient de l'éditeur. Malheureusement, le tome 1 et le tome 2 n'ont pas du tout le même format. Alors certes, ça ne gâche pas le plaisir de la lecture, mais quand on est collectionneur, dans la bibliothèque, ça craint un peu. Le tome 1 est beaucoup plus grand que le tome 2, et je trouve ça vraiment dommage. Donc pensez, chers éditeurs, je sais que bon, pour Macaca, c'est un jeune éditeur, il y a peut-être des difficultés que je ne connais pas... Mais proposer une cohérence dans le format, ça plaît en général. Hein. J'ai déjà eu d'autres cas avec d'autres bandes dessinées où le changement de format m'avait beaucoup énervé. Donc, changement de rubrique.
Changement de rubrique.
La séance rattrapage.
Un temps après, donc, nous allons enfin lire Spirou et Fantasio, Virus.
Alors, la séance rattrapage. Je pense que cette séance rattrapage va très régulièrement parler de Spirou et Fantasio, car en ce moment, j'essaye petit à petit de me refaire toute la collection. Et nous en sommes au tome 33, Virus. Tome assez particulier, car c'est le premier tome de Tom et Jean-Ry, des auteurs qui ont travaillé sur la série pendant pas mal de numéros et qui ont changé il y a peu. Ils succèdent à Nick et Covin, qui n'ont fait que deux ou trois épisodes, de qualité, comment dire, je pense que tu as peut-être un mot, Thio.
Non, parce que ça pourrait être méchant, et je respecte quand même leur travail, parce qu'ils ont quand même sûrement mis pas beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'en tant que fan de Spirou, ça m'a quand même beaucoup moins plu que ce qu'il y avait avant, ou que ce qu'on a connu depuis.
Pour parler comme dans les comics, je dirais qu'après le run de Franquin, suivi du run de Fournier, qui était aussi de qualité... Un petit peu en deçà de Franquin quand même, mais qui restait quand même avec de bonnes idées, quelque chose de sympathique, et qui contribue à moderniser le personnage.
C'est clair.
Nick et Covin ont un petit côté un peu trop old school, qui a très mal vieilli en fin de compte. Tom et Jean-Ry reprennent le personnage, le remettent dans un côté très moderne. Alors on est dans, je crois que ce tome-là est sorti en 84, donc on est dans les années 80, hein, on est dans le film d'action... Oui, tu avais 7 ans, oui, j'en avais 6 peut-être. Ouais. Donc nous sommes vraiment dans l'histoire d'action, dans le blockbusters. Il reste beaucoup d'humour, mais une narration encore assez condensée. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome, quelque chose qui disparaîtra un peu avec le temps. Hein. Et vraiment un renouveau pour Spirou et Fantasio. Tio ?
Enfin, bon, Spirou Fantasio, je ne suis pas un fan ultime, on va dire, mais voilà, c'est toujours des histoires qui se lisent facilement, qui sont agréables à lire. Ça fait un bon petit voyage. Puis bon, là, c'est vrai que. Mais je trouvais quand même que dans cette époque-là, on avait quand même des personnages qui étaient. Les stars étaient un peu mieux réparties. C'est-à-dire qu'on avait vraiment Champignac qui parlait, qui agissait. Et Spip, qui est quand même un personnage qui, du coup, a son importance à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'après, je trouve que ça baisse un peu et on reste vraiment que sur Spirou et Fantasio.
Dans Tom et Jean-Ri
sur les derniers que j'avais lus. Je l'ai plus. Ouais. Machine qui rêve, je crois.
Alors, Machine qui rêve est un tome assez particulier. Là, je pense que on en reviendra, on y reviendra quand on aura avancé dans la série. Donc, Spirou et Fantasio, ce tome Virus est un excellent tome. Donc, une histoire de virus qui attaque les gens. Et Spirou et Fantasio vont tenter de sauver dans une station en Antarctique avec l'aide du professeur de Champignac. Vont essayer de sauver tout ça. Oui.
Ouais, en fait, c'était les gens pétrifiés, mais c'était pas de Tom et Jean-Ri.
Les gens pétrifiés. Ah oui, non, on est loin de Tom et Jean-Ri.
Très loin de Jean-Ri.
Voilà. Nous en avons fini avec Spirou et Fantasio, au moins que tu aies quelque chose à rajouter.
Non.
Et nous allons partir sur le Oldies. La série complète, quelque chose en entier que vous pourrez apprécier. Et nous allons parler de Monster de Naoki Urasawa chez Kana. Monster, ben. Qu'est-ce que c'est ? C'est un manga. Nous n'avions pas encore parlé de manga aujourd'hui. C'est un manga de qualité. Tio, je sens que tu vas vouloir refaiter pour retrouver tes mots. Donc, je vais faire l'introduction moi-même.
Oui, oui, tout à fait. Mais enfin, en même temps, elle se fait assez simplement, étant donné que tout commence par une sorte de petite histoire dans un hôpital, limite à la urgence. Hein, on a le professeur qui est aimé par tout le monde, qui est le super médecin, et qui se retrouve avec un cas très compliqué de...
185 hein, dans l'histoire.
Ouais, mais bon, ça va, on peut mettre George dedans.
Oui,
même.
Oui, oui, tu peux mettre George dedans.
Donc on a George qui est donc là.
La BD est de 95, il me semble.
La BD ?
Oui, le Monster. Le tome 1 est copyright 95. Donc,
ah, ça aurait pu.
Oui, oui. Donc...
Donc du coup, notre super médecin en fait se retrouve à opérer une personne, je crois. Il n'y en a qu'une. Hein.
Oui, oui, oui. Enfin, le tome. Alors clairement, on va revenir dessus. On a lu. C'est une série qui contient combien de tomes ? Plein.
T'en as eu combien là ?
18. Qui contient 18 tomes. Donc l'histoire remonte assez loin. C'est du manga, donc on a beaucoup de pages par tome. Et on risque d'être un petit peu confus le temps que tout nous revienne à l'esprit. On essaiera pour les prochains podcasts d'un peu mieux réviser avant de nous lancer.
Et bien, on vous le dit tout de suite, on ne relira pas les 18 tomes quand même à la suite. Sinon, ça serait un petit peu beaucoup plus compliqué.
Ça vaudrait le coup quand même.
Mais bon, donc, ce docteur sauve un personnage, donc, lui fait une grosse opération, je crois, sur le cerveau. Et finalement, il se retrouve, je crois, qu'il se retrouve accusé d'un crime.
Alors.
Si je me souviens bien.
Je crois que c'est pas très clair dans mon esprit.
Si, ça, il est accusé d'un crime.
Alors, en fait, c'est un médecin japonais qui travaille en Allemagne dans les années 85, qui sort avec la fille du directeur de l'hôpital, qui a une carrière annoncée fantastique. Cet homme va être riche, célèbre, et c'est génial. Et qui, en gros, se trouve un jour avec un cas de conscience, à devoir choisir entre sauver le maire ou... un enfant. Ah, là, ça te souviens plus du tout de ça.
Vas-y.
Et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, le cas s'était déjà présenté. Il décide de sauver l'enfant.
Oui,
l'enfant.
Oui. Bon, enfin bon, en même temps, c'est pas ce choix crucial qui va faire toute l'histoire de Monster. Non.
Il décide de sauver l'enfant. À cause de ça, il se retrouve un peu paria. La femme du directeur le quitte. Enfin bon, sa vie devient un échec. Et 10 ans plus tard. On commence à avoir des histoires de tueurs en série qui arrivent. Apparemment, il y a un tueur en série qui s'est mis en place et notre héros se rend compte que le tueur en question, c'est le jeune homme qui l'a sauvé il y a 10 ans. Il se sent donc responsable de la création de ce monstre et décide de le retrouver pour l'arrêter. Et nous avons donc une sorte de road movie, une poursuite qui dure sur 18 volumes. Très très bien écrite, avec des personnages captivants et que je recommande grandement. Kyo, quelque chose à dire dessus ? Ah, c'est là. Oh là là, il va falloir que tu les relises peut-être.
Non, hein. Mais là, moi je suis persuadé, vu qu'il est poursuivi par les flics,
je crois qu'il commence à être poursuivi par les flics dans le tome 6 ou 7.
Bah, non, parce que là, regarde, je suis dans le tome 1 et déjà d'entrée, on a le. le flic qui se la joue Sherlock Holmes quasiment pendant
le
18...
flic apparaît mais il n'est pas encore accusé.
Ouais, bon, je suis d'accord avec toi parce que le flic lui parle et ensuite il le laisse partir. Mais bon.
Non, je crois qu'il ne commence à être accusé qu'assez tardivement. Donc.
Mais bon, du coup, on se retrouve dans une histoire où on va avoir une. Enfin, toute une vie de notre médecin qui va en fait devenir finalement plus trop un médecin à la fin, hein, qui sera. Qui aura un rôle de sauveur. Hein.
Oui, puis c'est aussi un médecin qui veut se poser en tant qu'exécuteur. Au bout d'un moment, il y a une grande question morale qui se pose.
Exactement. Est-ce que je tue? Est-ce que je tue pas? Mais bon, on se retrouve avec des personnages qui sont assez sympathiques et même une évolution dans ceci. Parce que, par exemple, tous les personnages qu'on a au début, petit à petit, dans différentes histoires, on les recroise à des moments. Par exemple, sa première femme, enfin sa copine, parce qu'il n'était pas marié, la fille du directeur donc, de l'hôpital, on la retrouve donc plusieurs tomes plus tard.
Avec un rôle important.
Et elle est tombée dans l'alcool, enfin dans plein de travers possibles. Et voilà, on va dire que toutes leurs histoires vont s'imbriquer les unes dans les autres. Et on va donc petit à petit avoir toute la vie de Monster qui va apparaître devant nous.
Qui reste un mystère. Que s'est-il passé pendant ces 10 ans de ce personnage pour qu'il devienne ce monstre?
Ouais.
C'est toute cette question. Et on a vraiment une poursuite captivante de beaucoup de questions. L'histoire évolue pas mal. Et puis, une caractérisation psychologique des personnages. C'est vachement dur à dire. Une caractérisation. Ah, voilà, j'ai réussi une
fois. Caractérisation.
Une caractérisation psychologique des personnages très très bien faite. Chaque personnage a son importance. Les personnages secondaires sont très très bien écrits. Ils évoluent au cours de l'histoire et sont très bien. Que dire des dessins?
Moi, je trouve que c'est un manga qui a vraiment ce qu'il faut au niveau du dessin. C'est qu'il n'y a pas de.
Il a ce qu'il faut au niveau du dessin.
Oui.
C'est du dessin qu'il y en a.
Non, mais dans le sens où c'est vraiment un manga qui est. C'est quand même un dessin qui est classique au niveau du manga.
Oui.
Voilà.
Assez réaliste tout de même.
Assez réaliste. Mais je trouve que c'est exactement ce qu'il faut. Il y a beaucoup de plans sur les visages. Et il y a quand même une ambiance qui va se créer au fur et à mesure. Moi, je me rappelle. Là, tu vois, là, c'est quand ça me revient. Mais au fur et à mesure des tomes, on a vraiment une ambiance qui se crée quand on est en train de lire dans ces cases. Parce qu'on a vraiment l'impression. L'histoire est très, très, très immersive. On se retrouve finalement à partager. La vie du héros et voir vraiment voilà, le mec, il a tout perdu. Il est dans la dèche, il végète de petit boulot en petit boulot pour essayer de mener son enquête et de retrouver Monster et de recoller les morceaux de sa vie. Il se balade un petit peu dans toute l'Europe. Je crois qu'il va en Italie aussi à un moment, ou en Suisse.
Il me semble.
Et du coup, il croise des personnes qui ont connu Monster, mais on est en train, nous aussi, au fur et à mesure, de faire comme lui, de recoller les petits morceaux. Et je trouve que ce dessin, quoi, c'est justement, comme tu dis, il est réaliste, tu es dedans.
Moi, quelque chose qui m'a impressionné, c'est qu'en le lisant, c'est une anecdote toute bête, hein, c'est qu'on fait souvent la constatation que ces Japonais se dessinent avec des yeux non bridés. Eh bien, en regardant cette BD-là, on se rend compte qu'en fait, je veux dire, il n'y a qu'un Japonais dans l'histoire, hein, on en croise quelques autres au milieu, mais vraiment de façon secondaire, on se rend compte que même s'ils n'ont pas l'impression, on n'a pas l'impression qu'ils ont les yeux bridés au premier abord, lorsqu'on les compare avec des Européens qui sont dessinés, eh ben, la façon de dessiner est différente. Et on reconnaît très facilement un Asiatique par rapport à un Européen. Donc moi, j'ai adoré ce style où les personnages sont vraiment très bien caractérisés, où ils ne se contentent pas de changer une coupe de cheveux pour nous montrer qu'un personnage est un autre, comme on peut l'avoir dans beaucoup de mangas classiques. C'est une histoire en plus qui est très adulte et qui n'a, selon moi, qu'un petit défaut. Vers la fin, elle joue un petit peu le jeu du... Je traîne sur la longueur et je rajoute des intrigues secondaires histoire de ralentir un peu la sortie du dernier tome. Est-ce que tu as eu cette impression?
Non. Voilà, je suis désolé. Enfin, en même temps, peut-être que j'en ai pas assez de souvenirs, mais moi, c'est resté quand même une histoire qui m'a bien tenu jusqu'au bout parce que même si tu as des intrigues qui, au fur et à mesure, se greffent dessus. C'est de l'habillage qui fait aussi que tu comprends bien que le gars il vit pas qu'une histoire quoi. Il est pas toujours à la recherche de Monster et il se passe d'autres choses aussi autour. Donc ça m'a pas plus choqué que ça.
Bref, Monster de Naoki Urasawa chez Kana, une très très grande bande dessinée, un manga de qualité sur 18 tomes. que vous pouvez aussi suivre en animé, car ils en ont sorti une version animée sur laquelle j'ai regardé les premiers épisodes, j'ai eu du mal à accrocher, peut-être parce que j'avais beaucoup aimé la bande dessinée.
Mais graphiquement, en fait, sur l'animé, tu te retrouves beaucoup d'images de.
Oui, mais bon, il y a un côté simplifié pour faciliter l'animation aussi.
Ouais, mais moi, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de clichés qui étaient presque tirés, on va dire, du manga. Vraiment, t'as les mêmes images. Bon, après, peut-être qu'ils n'ont pas pu non plus. Enfin, ils n'ont pas eu envie de faire aussi un scénario aussi complexe que ce qu'on pouvait avoir sur le manga. Mais c'est vrai que je l'ai pas. J'ai vraiment aussi vraiment survolé. Donc, du coup.
D'accord.
Mais on a aussi le conte. Un monstre sans nom.
Alors oui, c'était avec le sorti du tome 18, je crois, où ils avaient, pour une édition spéciale, sorti un livre pour enfants qui s'appelle Un monstre sans nom, qui est un livre pour enfants qui apparaît dans l'histoire. Donc il avait sorti, version livre pour enfants, cartonné. C'est collector, si vous avez l'occasion de tomber dessus, à pas trop cher, profitez-en. Cette histoire est intégralement présente dans la bande dessinée Monster, mais c'est vrai que c'était un petit bonus fort sympathique. Nous en avons fini avec ce podcast, donc notre numéro 0. Ah, pourquoi me regardes-tu comme ça? J'ai oublié quelque chose.
On devait faire un tu vois, le hors-série La Roue.
Oui, pardon, effectivement, à force de fouiller sur toutes nos BD. Nous allons parler un petit peu d'autre chose que de bande dessinée. Donc chaque mois, nous essaierons de parler d'un sujet autre. Et là, alors ça va être très très simple, je vais enfin pouvoir me taire pour la simple bonne raison que nous allons parler d'un film que je n'ai pas vu. Film que Thio a regardé, qui apparemment tu as beaucoup apprécié, c'est La Route.
C'est ça, un film en fait donc avec notre Aragorn mythique, Viggo Mortensen, qui pour le coup se montre toujours à Walt dans un de ses films, ça c'est obligatoire.
Mais, les filles seront contentes.
Voilà, les filles seront contentes, donc c'est pour ça qu'il faut aller le voir. Donc c'est un film qui est tiré donc d'une histoire de Cormac McCarthy et qui a donc gagné un Pulitzer pour ça. Donc du coup un excellent film qui se passe donc dans un univers un petit peu post-apocalyptique.
Un Pulitzer pour du post-apo.
Si je ne me rate pas.
Waouh.
Ça se trouve je suis en train de dire une énorme boulette, un truc qui fera que le podcast sera buzzé sur le monde entier, où on dirait que le mec ne savait même pas de quoi il parlait.
Ah, il a dit que McCarthy avait eu un Pulitzer.
Non, ça, je crois qu'il a vraiment
eu. Il a eu des prix et il mériterait des. Apparemment,
je crois qu'il a eu un Pulitzer.
C'est un auteur qui est très reconnu. Bon.
Enfin bon. Et donc, ce film qui se passe dans un univers post-apo entre décrit une relation entre un père et un fils qui ont envie de survivre et ce père qui est vraiment dans une sorte de chemin initiatique où il essaye d'enseigner à son fils ce qu'il va devoir savoir pour survivre une fois que lui. Ben, ne sera plus là. Et on se retrouve dans une ambiance qui graphiquement et au niveau de la luminosité est exceptionnelle. Voilà, y a un travail là-dessus qui m'a laissé un peu pantois dans le sens où on se retrouve avec une ambiance très grise, comme si on y avait... eux, ils ont pris le prétexte de l'hiver nucléaire dans le film, ce qui, je crois, n'existe pas dans le livre. Et du coup, on se retrouve avec une lumière qui est très, très grisâtre, une ambiance qui est... où il y a beaucoup de silence, et en même temps, finalement, le peu de bruit qu'il y a quand il rencontre d'autres hommes qui sont devenus... qui pour se nourrir, font du cannibalisme, ça a un côté malsain, mais qui, finalement, on va dire, passe presque au second degré. Voilà. Surtout, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce côté voyage initiatique entre un père et un fils, Et les découvertes qu'ils vont faire de même cette espèce de long voyage vers l'enfer pour le père qui finalement au fur et à mesure de l'histoire essaye de passer des idées à son fils en lui disant que voilà il faut eux ce sont les gens bien que eux ils ont la flamme et qui lui commence lentement à se rabaisser un petit peu au niveau des autres hommes quoi.
D'accord, donc un film plutôt captivant. Tu classerais comment? C'est du post-apo, mais bon, on est loin d'un blockbuster à la 2012. C'est pas des effets spéciaux dans tous les sens. C'est...
Non.
Non.
Si, enfin, il y en a, mais ils sont vraiment, ils sont légers, quoi.
C'est quoi? C'est du film d'horreur intimiste? C'est
du film d'horreur intimiste. Pas vraiment d'horreur, en fait. Le seul passage, moi, qui m'a choqué, en fait, et qui, d'ailleurs, ouais, c'est une discussion que j'ai eue déjà avec d'autres personnes. Je crois que le film était interdit en moins de 12 ans. Et il y a un passage, un moment où il découvre une maison Peut-être là, du coup, j'ai fait un spoiler pour ceux qui veulent voir le film.
Ah ouais, vite peut-être, ouais. Parce que je veux le voir.
Bon, ouais, mais c'est pas... C'est, bon, on se retrouve à voir donc, des gens qui sont un peu mutilés, qui sont... Mais ça, c'est ce passage qui m'a un petit peu dit, peut-être qu'ils auraient peut-être pu l'interdire un peu plus, parce que moi, c'est... Bon, pourtant, je suis pas une chouchotte, hein, mais c'est des images qui me sont un petit peu revenues en tête, quand même.
Ouais, donc un film un peu dur, quand même.
Ben, disons que, voilà, il y a plus de société, il y a plus d'hommes, il en reste pas beaucoup.
Et qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est ces images choc ou alors c'est le côté psychologique de l'histoire ?
C'est plus moi. Enfin, moi, ces images-là me sont revenues en tête après en repensant au film, mais c'est surtout que, en ressortant du film, j'étais pas follement emballé. Voilà.
D'accord.
Mais au fur et à mesure, en repensant au dialogue, au parcours qu'ils font ensemble, j'ai vraiment. Mais après, voilà, du coup, j'ai vraiment beaucoup repensé au film et ça m'a vraiment plu sur ce côté-là. Sur ce passage psychologique et sur cette dualité entre le père et le fils, où il y en a une impression qu'il y en a un qui va du côté du bon côté de la force et l'autre qui essaye justement d'éviter le côté obscur.
Le fils à quel âge dans l'histoire hein ?
Il doit avoir entre 8 et 10 ans,
ah
je
oui,
dirais.
Donc c'est vraiment un petit, c'est pas l'image classique qu'on peut avoir 10, de, ouais, l'ado, de l'ado.
Plus de 10, ouais, 10. Ouais, il est plus grand que mes élèves. 8, moi je dirais il doit être entre 10 et 12 ans.
Ça,
voilà.
C'est de la référence que tout le monde aura compris.
Ouais, bien écoute, on peut pas tout faire. Hein.
D'accord. Bon, ben, ça me donne bien envie de le voir, voire de le lire. Toi, ça te donne envie de lire le livre ?
Ouais, parce qu'en fait, en ayant lu, bon, après du coup, je suis allé un peu consulter sur Internet, j'ai lu quelques forums qui parlaient justement du film. Et visiblement, les gens qui avaient lu le livre, je ne l'ai pas lu, hein, donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais moi, je n'ai pas lu le livre, j'ai vu que le film. On dit que voilà, il y avait certaines choses qui ont été choisies, certains choix, on va dire, du réalisateur, mais qui n'allaient pas dans un mauvais sens par rapport au livre, et que c'était quand même une très bonne adaptation. Donc, ça me donne envie quand même de lire le livre, même si je pense que je vais attendre un petit peu pour que justement l'histoire se soit, enfin le film se soit un peu tassé dans ma mémoire et découvrir peut-être un peu plus tranquillement le livre au fur et à mesure.
D'accord, donc un film à voir, peut-être même à voir avant d'avoir lu le bouquin, ce qui est en général un grand classique si on ne veut pas être déçu. Donc là, pour le coup, nous arrivons à la fin de ce podcast. Bah, nous vous remercions de nous avoir suivis jusque-là. On doit avoir plus d'une heure et demie d'images.
On est presque à 2 heures, je pense, de son. Hein, donc,
presque 2 heures de son. Bah, j'espère que ça n'aura pas été trop long, que vous avez apprécié ces quelques temps avec nous. Vous pouvez nous suivre sur mon blog, donc one.a.pied.free.fr/blog.
Alias le mégalo.
Oui, oui, un peu mégalo, oui. Et puis je fais que parler, je sais, on n'arrête pas de me le dire. Nous attendons toutes vos critiques, vos commentaires. Dites-nous ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce que nous devons améliorer sur tout ça.
Soyez pas trop méchants, je suis très, très, très susceptible.
Allez-y, je sais le gérer. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, OneNayPied. Voilà, O-N-E-E-Y-E-P-I-E-D. Je continue mon quart d'heure mégalo, c'est ça ? Voilà.
Donc vous ne pouvez pas me suivre sur Twitter et je ne suis pas non plus sur Facebook, donc vous ne me suivrez pas.
D'accord. Ah. Donc voilà, bien, nous vous remercions de nous avoir suivis. Au revoir Thio. Vous pouvez dire au revoir à notre ami injoignable sur le net. Nous retrouvons le mois prochain pour d'autres lectures, d'autres bandes dessinées, qui seront beaucoup plus axées comics.
Alors là, j'ai tenu le contraire, parce que tu vois, avec Noël qui arrive, là, je pense que je vais un peu me refaire au niveau réserve, et je pense que je vais venir avec, du coup, tu vois, par exemple, La Licorne, le dernier tome, vu que c'est une trilogie, celui-là, je pense que là, on n'y coupera pas sur la prochaine. On
va peut-être relire les 2 tomes précédents, pour le coup. Bon, on va essayer d'un peu mieux préparer. On va essayer d'un peu mieux préparer ça aussi, car nous nous sommes rendus compte dans notre direct que, bah, il y a quelque chose à revoir. Merci à vous, et au revoir.
Au revoir.